Les 20 ans de l'OQAI, la qualité de l'air intérieur, un critère déterminant au cœur des projets.
Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'occasion de ce colloque sur les 20 ans de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, un observatoire qui a un outil d'aide à la décision. Et justement, on va parler d'initiatives voilà, cet après-midi dans le cadre de deux tables rondes à venir. Et notre première table ronde s'intitule donc « La qualité de l'air intérieur, un critère déterminant au cœur des projets ». Avant même que la pandémie ne vienne mettre ce sujet au centre de l'attention, cette qualité de l'air intérieur était déjà au centre de préoccupation de maîtres d'ouvrage publics, privés ou bailleurs sociaux. Nous allons le voir avec les intervenants de cette première table ronde, que ce n'est certes pas un sujet nouveau, mais pour autant, ce n'est pas si facile à traiter. Alors, j'ai autour de moi deux personnes en plateau et nous en avons deux en distanciel. Alors, nous avons Alban Charrier, vous êtes responsable du département des politiques techniques au sein de l'Union sociale pour l'habitat. Donc, vous vous occupez particulièrement de ces questions-là. Nous avons également sur notre plateau Madame Shahrazad Thomas-Vastra, vous êtes architecte des PLG. Alors mettez-vous bien devant
oui,
le micro.
Bonjour.
Voilà. Architecte des PLG, représentant le Collège national des experts architectes français. Et alors nous avons également à distance, est-ce que monsieur Chabrol est là ? Alain Chabrol, administrateur au sein de l'ONG France Nature Environnement et vice-président du Conseil national de l'air. Bonjour monsieur.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc voici donc sur cette première partie, voilà, l'idée c'était de se poser la question de savoir comment la qualité de l'air intérieur était envisagée aujourd'hui et en quoi justement est-ce qu'elle est maintenant un critère déterminant au cœur de tout projet. Monsieur Charrier, peut-être nous faire un petit point. Donc vous occupez notamment à l'USH donc de tout ce qui est parc social, du logement social. Comment est-ce que c'est envisagé de votre côté?
Bonjour d'abord, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet important. Donc la QAI, c'est un enjeu important pour tous les maîtres d'ouvrage et pour les maîtres d'ouvrage sociaux en particulier. Alors, évidemment, la crise sanitaire a remis en évidence ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est déjà connu et porté en partie par les bailleurs depuis pas mal d'années. C'est un sujet qui prend aussi de l'importance avec la problématique de la réhabilitation. On l'a beaucoup évoqué dans la journée, mais on a, nous, bailleurs sociaux, un programme important de réhabilitation sur les années à venir. Programme renforcé encore par les nouvelles exigences de la loi Climat et Résilience. Donc c'est un sujet qui est pris en compte par les bailleurs depuis pas mal d'années et sur deux sujets avec deux traitements distincts. Nous, on considère qu'il y a deux sujets dans la qualité de l'air intérieur. Il y a premièrement les polluants sanitaires à effet immédiat ou effet extrêmement important, type légionelle, monoxyde de carbone, amiante, radon, on en a parlé tout à l'heure. Et puis une deuxième partie qui est plutôt la pollution de l'air. Et donc, dans le premier cas, les pollutions à risque important, type amiante, radon, etc., c'est des sujets qui sont déjà extrêmement bien détaillés dans le corpus réglementaire. On a un corpus réglementaire fourni et exigeant sur ce sujet-là. En tant que maître d'ouvrage professionnel, bien évidemment, c'est des sujets qu'on a intégrés dans nos pratiques. Le monoxyde de carbone, par exemple, il est traité grâce à des contrats de manière exhaustive sur l'ensemble de nos parcs. Les bailleurs sociaux se sont extrêmement investis dans la problématique de l'amiante en intégrant des démarches gouvernementales type PRDA, etc. Donc voilà, donc on traite ce sujet-là. Sur le sujet pollution de l'air intérieur, peut-être qu'on a encore des éléments à faire, des progrès à faire. Et surtout parce que c'est un sujet qui est compliqué. Nous, on le voit entre trois dimensions. Il y a bien évidemment l'air extérieur. Il y a la qualité de l'air qui est liée à la construction, à notre métier propre, la construction et l'exploitation des bâtiments. Et puis, il y a la qualité de l'air intérieur qui peut être qui est impactée par l'usage et l'occupation. Alors, autant on a une capacité d'agir directement sur la construction et l'exploitation, puisqu'on est maître d'ouvrage, on est exploitant de bâtiment. On a une capacité à agir de manière indirecte sur l'usage. On a un lien fort avec nos occupants, donc on peut être un vecteur d'information, de sensibilisation, et les bailleurs le font. Par contre, on a bien évidemment une action beaucoup plus faible sur la partie pollution extérieure.
Non mais on voit bien compte oui que les usagers sont quand même partie prenante là-dessus. Mais ce que je trouvais intéressant, et on en a parlé aussi tout à l'heure lorsqu'on parlait des bâtiments performants, finalement il faut prendre en compte la qualité de l'air intérieur, vous le disiez, dès la conception et dans la construction et après sur l'exploitation du bâtiment. Et ça, vos organismes sont sensibilisés à cette question.
Oui, on travaille, on a participé, enfin l'USH dans ses activités, on a participé par exemple au pilotage du groupe ESSO qui a permis la création du chapitre qualité de l'air intérieur dans le CCH. On participe avec la filière aux différentes démarches. Madame Sanchez l'expliquait avec la démarche Ishakai. Donc ça fait partie, on a participé à ce travail-là. Et un autre rôle, et ce qu'on a fait, c'est qu'on le répercute auprès de nos adhérents. Donc on donne cette visibilité aux adhérents. Et effectivement, la part gestion du chantier en amont de livraison est extrêmement importante pour une qualité d'air extérieur. Et bien évidemment, on est en partage avec nos équipes de maîtrise d'œuvre, puisque le maître d'ouvrage n'est que l'assemblier d'acteurs pour construire. Et là, on a un travail fort à faire avec nos équipes de maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études. Et notre rôle, là, c'est dans la programmation d'intégrer ce sujet de la qualité de l'air intérieur comme un critère à prendre en compte dans la conception.
Mais alors, avant de revenir sur la réglementation directement, j'aurais voulu me tourner vers Monsieur Chabrol, justement. Donc, vous êtes administrateur au sein de l'ONG France Nature Environnement et vous êtes également vice-président du Conseil national de l'air. Donc, on l'a dit, voilà, il y a une prise de conscience forte à laquelle l'Observatoire a fortement contribué, vous me disiez.
Oui, alors, effectivement, d'abord, merci pour votre invitation. Et si la problématique de l'air est une problématique ancienne, celle de l'air intérieur est quand même beaucoup plus récente. Madame Kirchner l'a rappelé, hein, la loi LAure en 96, et puis l'introduction dans le PNSE 2 avec les conseillers environnementaux d'environnement intérieur, et puis le premier plan de qualité air intérieur, mais il a fallu quand même attendre le plan national santé environnement 3 à partir de 2014 pour commencer à le mettre en œuvre. Donc, autant, on va dire, ces 20 dernières années, beaucoup de progrès ont été faits, autant ça va pas toujours de soi. Même si on passe 80% de notre vie dans des locaux fermés, on boit 2 litres d'eau par jour, mais on respire 12 000 à 15 000 litres d'air par jour. Et quand la qualité de l'air intérieur est mauvaise, ça a des impacts effectivement très importants sur notre santé. C'est pour ça qu'on dit que la mauvaise qualité de l'air intérieur, c'est quand même un des 5 principaux risques en santé publique. C'est donc bien un enjeu majeur et un défi sociétal. Et tous ensemble, nous devons répondre aux attentes de la population, vous l'avez dit au cours de la journée. Au-delà de la bonne santé, c'est la qualité de vie, c'est le confort. Et c'est des attentes souvent portées par les associations, je le rappelle. Alors, bien sûr que dans nos déplacements, notre travail, le fait d'étudier, d'habiter, il faut vraiment que le critère air intérieur rentre, je dirais, dans les habitudes et dans la culture des constructeurs, des aménageurs. Mais on l'a dit tout à l'heure, aussi de la population, et là c'est un chantier très, très complexe qui relève de l'éducation et de la formation.
C'est ce qu'on apprend aussi, c'est que quelquefois, par exemple, les maires qui s'occupent des écoles, etc., ils ont beau mettre en avant plein de pratiques à faire, à mettre en œuvre, etc., finalement on n'empêchera jamais le fait d'obstruer la partie de ventilation, de mal aérer la pièce. Finalement, il y a quand même une action finale de l'usager qui doit être prise en compte.
Oui, alors vous le rappelez justement, dans les avant-dernières élections municipales, il y a eu la moitié des élus qui ont été renouvelés, et la même chose dans les dernières. Et je le vois autour de moi, tous les jours. C'est vrai que, de manière générale, les sujets de santé et environnement, mais particulièrement l'enjeu de la qualité de l'air intérieur, pour des élus, c'est quand même une belle patate chaude, malgré tout ce qu'offre l'OCAI et donc les différents intervenants depuis ce matin, ça va pas de soi pour les élus. Et là, on réclame, nous, à France Nature Environnement, notamment au sein du GSE, du groupe de pilotage des politiques de santé et environnement, une véritable politique décloisonnée de formation des différents acteurs, mais à commencer par les étudiants, mais aussi beaucoup plus petits en milieu scolaire.
Oui, finalement, dès plus jeune âge, on peut
apprendre. Bons réflexes.
Bien sûr. Alors, on en parlait justement. Donc, il y a quand même des prochaines réglementations aussi qui se mettent en place. Une prochaine réglementation environnementale. Vous l'aviez évoqué, Monsieur Charrier, sur le fait que la qualité sanitaire de logement, bien sûr, se renforce et la réglementation avance également là-dessus. Alors, je ne vous ai pas encore entendu, Madame Thomas Vassera, donc vous êtes architecte. Voilà, la prochaine réglementation environnementale, elle va prendre en compte un peu cela. Et Monsieur Charrier le disait, voilà, il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre pour prendre en compte aussi ce facteur.
Tout à fait. Voilà, donc avant de commencer, je tiens à remercier quand même Madame Buschmann et Madame Kirchner. Notre relation avec le CNEAF, donc le Collège National des Architectes Français, qui a commencé en 2016, lors de l'installation commune de comité consultatif du Conseil scientifique de l'observation de qualité de l'air intérieur. Et par la suite, on a fait appel à Madame Buschmann et Madame Kirchner autour d'une table ronde au sein du CNEAF pour nous initier à ce problème, parce que qui peut mieux.
C'était un élément que les architectes n'avaient pas forcément.
Tout à fait. Et donc, par la suite, donc récemment, en septembre 2021, on a organisé un congrès à Chambéry. Et donc, il y avait aussi l'intervention de Madame Mandin sur donc la santé et les usagers de bâtiments, et surtout les bâtiments en ce moment, comme on dit, sobriété énergétique, et donc dans les perspectives de réglementation et le retour d'expérience.
Donc, c'est vraiment un sujet qui concerne l'ensemble de la chaîne.
Des acteurs. Et je tiens quand même à rappeler que le 20 ans, c'est l'âge de raison, ce qu'on dit. Donc, je félicite cet âge-là de passer à l'action, on va dire. Parce que bon, on n'est plus adolescent et là, maintenant, il faut qu'on se mette autour de la table et puis de discuter justement avec le maître d'ouvrage et en tant qu'architecte, maître d'œuvre, on est considéré comme chef d'orchestre. Donc, je ne veux pas seulement attirer l'attention sur la responsabilité des architectes dans ce domaine-là. Bien sûr, tout le monde est responsable, comme elle a juste titre rappelé Madame Kirchner dans la précédente table ronde. Donc, en fait, c'est une orchestration de méthodes, de réglementation, de mise en œuvre des règles de l'art,
bien sûr,
avant tout.
Et voilà. Alors, justement, est-ce que la question, enfin, on l'a évoqué, hein, la pandémie, vous êtes donc du côté des bailleurs sociaux, c'est un point qui a remis en fait au cœur des préoccupations cette qualité de l'air intérieur, cette nécessité de ventilation, et finalement de se dire, ben voilà, il faut sans doute aller encore plus loin.
Oui, tout à fait. Enfin, ça a en tout cas amené à de nombreuses questions de la part de nos occupants. Des inquiétudes. Le voisin était malade. Comment ça s'est passé? Est-ce que mon logement est sain alors qu'il y avait un cas dans la cage d'escalier, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a remis. Mais d'ailleurs, c'est sociétal. On a tous maintenant un regard un peu plus
aguerri,
merci, sur ce sujet-là. Donc effectivement, ça devient maintenant un point important. Ça va devenir un critère déterminant. Alors avec la limite d'un maître d'ouvrage qui a un certain nombre de critères, hein, c'est pas le seul critère, ça ne pourra pas être que le seul critère, on l'a évoqué, hein, l'énergie, le carbone, l'accessibilité, la sécurité, ainsi, donc voilà.
Tout ça au milieu en plus d'usages qui se transforment,
le télétravail, la demande forte d'espace un peu plus commun, et donc là c'est le travail qui va être de toute façon en cours de réflexion. Alors côté maîtrise d'ouvrage et côté USH en particulier, on développe un projet sur la qualité d'usage qui va intégrer à la fois la partie santé, mais la partie aussi utilisation au confort de son logement, et la qualité de l'air intérieur va faire partie de ces éléments-là. Dans le cas d'une école des qualités de la construction ou qui permettra de voir, enfin donner de la visibilité à nos adhérents sur ces sujets-là.
Alors, on fera un peu le lien justement avec la table ronde qui suit, Madame Thomas Vastra, parce que finalement, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a différentes typologies de conception de bâtiments et on a des ventilations qui sont adaptées. Alors, on va vers une réglementation qui nous demande, on l'a évoqué, d'avoir des bâtiments beaucoup plus étanches, mais pour autant pas complètement étanches, hein, mais beaucoup plus étanches, et que du coup, ça, il y a des traitements à régler. Et donc, l'innovation existe quand même sur ces points de vue-là, on avance aussi.
Tout à fait, on avance. Il y a aussi le bon sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'aérer.
Oui, c'est ça. Ouais.
Sauf qu'il y a quelques problèmes, en fait, qui concernent, par exemple, les maisons passives, par exemple. Je suis spécialiste dans ce domaine. C'est-à-dire, il y a une condition, par exemple, quand il fait froid, on dit qu'il ne faut pas ouvrir la fenêtre. Donc, la ventilation double flux s'impose et c'est là où la mise en œuvre est anticipée avant la mise en œuvre de la ventilation double flux. Je ne parle pas seulement de maisons individuelles, je parle même des logements, etc. Donc, il y a plusieurs critères, comme on dit, avant, pendant, après chantier. Et après, donc, tout simplement, faire un guide de bons usages pour les usagers.
Bien sûr. Voilà. Mais alors, il nous reste quelques minutes. Oui. J'aurais aimé avoir à vous trois, justement, qu'est-ce que des travaux tels que l'OQAI vous apporte? Qu'est-ce que vous attendez encore? Qu'est-ce qui pourrait manquer? Alors, Monsieur Chabrol, je propose qu'on commence par vous, puisque vous êtes à distance. Est-ce que, qu'est-ce qui vous manquerait encore aujourd'hui dans cette prise de conscience? Qu'est-ce que vous apporte l'Observatoire?
Alors, avant de manquer de parole, je soulignais quand même le rôle unique en Europe et exceptionnel de l'Observatoire. Et bien sûr, on ne peut que féliciter la présidente. Hein, merci André pour toute ta pugnacité, ta détermination à faire vivre l'Observatoire, même dans des conditions difficiles. Je ne développe pas. Alors, ce qu'on attend de l'Observatoire, c'est que, il continue à être un observatoire d'excellence parmi les différents objectifs que vous avez traités depuis ce matin, hein, notamment dans l'ordre de la connaissance, de la formation, de la vigie, des bases de données. Évidemment, une grande attente vis-à-vis des résultats de la deuxième photographie du parc de bâtiments, parce que la première photographie nous avait quand même un peu ébranlé et ça a joué un rôle majeur dans l'avancée du traitement, la qualité de l'air intérieur. Alors, quand même quelques attentes.
Mais peut-être au niveau plus global.
Et j'élargirai quand même un petit peu aux enjeux de santé et environnement. Il faut renforcer la gouvernance quand même, notamment, je pense aussi au portage interministériel, même si l'Observatoire est un bon exemple de ce que on peut faire. Et puis quand même, il faut être clair, hein, la santé environnement, c'est le parent pauvre des finances de la santé publique. Et puis j'espère vivement que le déploiement des politiques, notamment les actions qui sont mentionnées dans le plan national environnement 4, ces actions seront déployées avec succès. Mais pour ça, il faut des moyens humains dans les territoires, et je pense aux services de l'État, l'ARS, les DREAL, qui s'occupent de ces sujets. Et puis j'insisterai sur deux points. C'est l'approche globale, hein, et donc demain certainement il faudra, à la lumière d'ailleurs de la Covid, avoir une nouvelle approche des politiques de santé. Hein, je ne parlerai que de l'approche One Health, une seule santé, et puis aussi dans tous vos travaux, la nécessité de prendre en compte la transition écologique, notamment au niveau de l'empreinte écologique, notamment dans la construction, mais c'est vrai aussi pour les transports. Et puis j'insisterai sur un dernier aspect, c'est l'éducation et la formation,
mais oui,
et notamment par rapport au mode de vie des citoyens. J'ai en tête, quand on parle des citoyens, les pesticides, les biocides, par exemple. Et puis, quelque chose qui a été rappelé, mais l'air intérieur et les 1000 premiers jours des enfants, c'est vraiment un bel enjeu commun.
Merci beaucoup, merci monsieur. Je suis désolée de vous presser un petit peu. Peut-être un dernier mot. Donc on a entendu éducation, des moyens et un observatoire, toutes ces données qui vous permettent, vous, d'avancer également, monsieur Charrier.
Oui, tout à fait. Enfin, ce que nous apporte le QAI, c'est effectivement un état des lieux. Et puis il n'y a pas de capacité de définir une stratégie si on n'a pas une base solide. Donc là, ça apporte cela. C'est aussi un aiguillon pour nous pousser à progresser. Et qu'est-ce qu'on peut attendre ? On attend un lieu. Moi, j'attends un lieu de débat avec l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse, même Kirchner l'expliquait, il faut qu'on ait une capacité de définir des solutions communes pour qu'elles soient soutenables et réellement mises en œuvre. Et donc voilà, c'est cet endroit où on peut, de manière dépassionnée,
apprendre.
Et peut-être un dernier souhait aussi, c'est que ça soit un des outils, mais ça le fait déjà, de poursuivre l'impact de l'ARE 2020, puisque on l'a expliqué, on va avoir des nouveaux matériaux, on a des nouvelles pratiques de construction. L'ARE 2020, ça va nous pousser à construire très différemment. Et donc là, on a besoin de voir quel est l'impact de cette exigence-là et de cette réglementation-là sur la qualité de l'air intérieur.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter ?
Moi, je vais rajouter aussi, il faut aussi ouvrir le débat vers autre solution. Ça a été dit avec l'intervention, je crois, de la Hollande. Il y avait un professeur qui était en distanciel. Et parce qu'il n'y a pas que la ventilation mécanique, il y a aussi des ventilations naturelles. Donc, il faut s'ouvrir, voir un peu ce qui se passe en Europe, notamment ce que je vous ai expliqué en aparté en Autriche. Par exemple, maintenant, on peut trouver une solution avec des matériaux biosourcés,
finalement,
tout à fait, avec sur le même principe d'une maison passive, mais avec un système d'ouverture, par exemple, avec un capteur de CO2 et un capteur
à moitié automatique et en même temps, avec une ventilation naturelle
qui s'ouvre dès qu'il y a. Donc là, ça nécessite quand même très important avant projet, pendant le projet et puis après. Voilà, c'est bien tout sûr. Ce que je veux dire. Il y a toutes les phases avant, pendant, après, tout corps d'état.
Alors bien sûr. Et l'idée, justement, on l'a bien compris en tout cas, c'est de continuer à apprendre et à comprendre tous ces phénomènes. Et vous me permettez justement de faire la transition avec notre prochaine table ronde que nous retrouvons dans 10 minutes, à exactement 16 heures, donc qui sera justement sur la filière, avec des professionnels, donc une filière source d'innovation, de métiers et d'opportunités économiques. Merci à vous trois.
Merci
beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Les 20 ans de l'OQAI.